France Culture.
Un roman policier est un récit où le raisonnement crée l'effroi qu'il est chargé d'apaiser. Thomas Narcejac. Et pas d'erreur, c'est le genre. Mauvais genre consacré ce soir à trois maîtres arpenteurs de la terreur, à trois alchimistes de l'effroi, Pierre Boileau, Thomas Narcejac et John Carpenter. Aux deux premiers, Quarto consacre, grâce à notre invité Dominique Jeannereau, un volume regroupant sept de leurs romans adaptés à l'écran, des diaboliques d'Henri-Georges Clouzot aux victimes de Patrick Grandperret, en passant par Vertigo ou Maléfice d'Henri Decoing. Le second fait l'objet, 27 ans après le tout premier, d'un second essai signé Jean-Baptiste Torré, paru aux éditions Magnani. C'est donc, soit dit en trépassant, La peur, notre mère, qui sera l'objet de Mauvais genre ce soir. Chronique en second temps d'émission signée Esther Teilhard et Hubert Prolongeau. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre en direct depuis la maison de la radio, alors que Quai du Polar bat son plein à Lyon, alors que Reims Polar, grand festival auquel nous étions hier pour rencontrer Kyoji Kurosawa, bat son plein à Reims, et bien nous à Paris, nous battons le plein du suspense et du mal grâce à deux livres exceptionnels, on peut le dire. Donc Boileau Narcejac, suspense du roman à l'écran aux éditions Gallimard dans la collection Quarto, grâce à vous. Dominique Jeannereau, bonsoir.
Bonsoir, François Angelier.
Alors c'est très bien, vous avez continué à battre, à creuser vous le filon, non pas du mal, si, à la fois du mal et du suspense, mais après tous les grands Américains que Quarto a honorés, grâce surtout au travail exceptionnel de Benoît Tadier, c'est vous qui nous donnez ce soir Boileau Narcejac, et que vous nous révélez d'ailleurs, vous réveillez quand même de manière assez étonnante l'intérêt et la puissance de cet univers romanesque et cinématographique. Bravo et merci. Donc bien. Bienvenue à Mauvais genre. Et puis en 1998, deux jeunes cinéphiles venaient faire la présentation de leur premier livre dans une jeune émission. C'était vous, Jean-Baptiste Torré, bonsoir.
Bonsoir François.
Ça va ?
Bah écoutez, ça va toujours quand je suis chez vous.
Voilà, très bien. Oui, en 1998, le livre était paru chez Dreamland, c'était un co-écrit.
Oui, c'était un livre coécrit avec Luc Lagier. On était avec Luc à l'époque étudiant en cinéma. On avait décidé d'écrire notre premier livre qui sortait quand même d'un travail universitaire sur John Carpenter. Et Dreamland était une maison d'édition à l'époque spécialisée dans l'animation. Mmh. Et donc ils se lançaient dans un premier livre sur le cinéma sans trop, à mon avis, savoir ce qu'ils allaient faire. Et nous non plus. Et c'est devenu ce livre qui s'appelait Mythes et Masques, les fantômes de John Carpenter. Voilà, il y a 27 ans. Vous nous aviez invités à l'époque. Ah bah. Moi, je pense que c'est la première fois que je mettais les pieds dans un studio de France Culture.
Immanquable.
En 98. Et puis, je crois que vous avez beaucoup aimé mon débit de parole, ça vous a immédiatement séduit.
Oui, d'ailleurs, ça marque.
Et vous m'avez proposé de faire venir une chronique à 350 km/h sur L'Exorciste de William Friedkin, qui à l'époque sortait en DVD d'Odin. Voilà, c'est comme ça que tout a commencé.
Et comme on dit dans les romans traditionnels, et l'on sait ce qu'il en advint.
Voilà, ça, il faut. D'autres en jugeront.
Alors, 27 ans plus tard, donc pareil aux éditions Magnani, donc, qui a déjà publié un autre ouvrage de vous, qui était Verte ma vallée, un gros recueil d'articles, Back to the Bone, qui est un John Carpenter 2025, où vous revisitez avec liberté totale, c'est ça, on va en parler, c'est la liberté à l'égard du sujet. Vous êtes débarrassé de toute la dimension intimidante, la solennité du premier livre, et là vous volez dans l'univers de Carpenter, on va en parler d'ailleurs, il va se passer des choses. Bonsoir Esther Teilhard.
Bonsoir François.
Car ne va bien.
Carne va bien, Carne commence à souffrir de la chaleur, là.
Oui.
Pourtant, la Carne connaît la chaleur. Mais...
Bon. En tout cas, on peut vous retrouver dans plusieurs festivals du livre. Là, la liste est disponible.
Le prochain est à Saint-Louis, le Forum du Livre de Saint-Louis.
Très bien. Eh bien, vous êtes prévenu, habitant de Saint-Louis. Hubert Prolongeau, bonsoir.
Bonsoir François.
On peut vous retrouver où, vous, bientôt ?
On va me retrouver à Sarajevo et à Mostar à la fin de la semaine, parce que je pars en reportage en Bosnie, à essayer de voir comment vivent les gens avec les traces de la guerre et comment ils arrivent à digérer ça au moment où la peur renaît un peu. Mmh.
Ben ce soir, la peur, on va la faire renaître, mais en fiction.
Oui, de manière plus discrète,
c'est la peur qu'on aime bien, puisqu'on la maîtrise et qu'on sait à peu près comment elle a été créée, suggérée, suscitée. Donc, avec vous, Boileau-Narcejac surtout, puisque c'est une de vos lectures, ça, Boileau-Narcejac.
Oui,
énorme lecteur, mais...
Depuis longtemps, et on en parlait tout à l'heure avec Dominique Jeanneret, et on est deux à déplorer que la collection bouquins, pourtant magnifique, qui avait commencé une édition intégrale de Boileau-Narcejac, n'ait jamais terminé cette édition, qui a donc 5 volumes, le 6e, on l'attend encore, et si jamais les responsables de bouquins nous entendent, on leur dit, écoutez, on aimerait bien...
J'en parlerai à Jean-Luc Barré, comptez sur moi.
Ce 6e volume.
Oui, une très belle édition, dont vous vous servez, Dominique Jeanneret, qui fut conçu, on salue sa mémoire, par Francis Lacassin. La peur, le mal, on commence bien évidemment par une évocation signée Laurent Polleret.
Dites-moi, je peux vous poser la première question alors ?
Oui.
Dites-moi, madame, est-ce qu'il y a dans votre entourage, ici parmi vous, quelqu'un qui vous rend souvent visite ou quelque chose comme ça ?
Je suis bien, surtout avec tout le monde, et on m'appelle mamie.
Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein ? Ouais, ici, c'est un peu particulier. Hein. Quand je suis rentré, j'ai tout de suite vu sur la table la boîte de Cédocair. Et je ne sais pas si tu sais, mais une boîte de Cédocair, c'est un médicament pour les gens qui souffrent du cœur. Donc ici, j'ai foutu une trouille bleue, ce qui me permet d'éviter de gaspiller une balle, tu vois. Et pour les voisins, et pour moi, et pour elle, c'est beaucoup plus simple. Tu vois, j'essaye de prendre de nouvelles techniques. Comme ça. Et je crois qu'elle en a plus pour très longtemps, là, déjà.
Voilà, Benoît Poelvoorde dans cette arrivée près de chez vous. Ça pourrait être aussi un sous-titre pour l'œuvre de Boileau-Narcejac. Dominique Jeanneret, cette arrivée près de chez vous, ça arrive toujours un peu dans ces milieux provinciaux, dans des milieux de gens...
La province fait vraiment partie des règles que se sont fixées Boileau-Narcejac pour écrire des romans, ce qui les distinguerait des romans de Simenon, ce qui les distinguerait des romans américains. Et c'est vrai que chaque roman a un peu son univers et son lieu. Par exemple, lorsqu'ils écrivent Maléfice, c'est le gois qui va le passage de la mer, de la marée, qui va les décider, qui est le personnage principal quasiment, puisque c'est lui qui commet le crime en réalité. Souvent, les personnages ne commettent pas les crimes eux-mêmes, mais laissent quelqu'un d'autre le faire pour eux. Là, en l'espèce, c'est le paysage. Mais donc, on a Nantes, Enghien, Marseille, on voyage jusqu'à San Francisco, alors bien sûr, dans les adaptations cinématographiques, on peut voyager au bord du Saint-Laurent, enfin, ce qui est le pont de Neuilly dans la Seine peut devenir le Golden Gate Bridge dans la baie de San Francisco, ou ça peut devenir dans une adaptation en Inde, ça peut devenir la baie du Bengale, ça peut devenir en Chine, enfin, etc. Il y a un universel à travers le local.
Hubert Prolongeau, donc 7 romans du suspense à l'écran, c'est vrai que c'est une bonne manière de circuler quand même, parce que on parlait de bouquins et de Francis Lacassin, il y a 6 volumes de 1000 pages, 1200 pages qui ont été prévus, 5 sont parus, donc c'est des milliers de pages, aussi bien des romans, des nouvelles, des articles, des recensions, des entretiens, il y a une présence énorme de Boileau-Narcejac, là c'est celle du cinéma, et c'est vrai que directement, il y a quelque chose de très particulier avec l'histoire de ces deux hommes avec le cinéma, puisque ça démarre en fanfare, et puis après, j'ai une sorte de rythme de croisière qui s'instaure, et puis les choses se normalisent. Hubert.
Est-ce qu'ils auraient existé pareillement sans le cinéma ? Ça, c'est ma première question. Puis la deuxième, c'est effectivement, est-ce qu'il y a une raison ? Est-ce que c'est la chance au début, moins de chance après, à ce que la qualité de leurs films ou des films qu'on en a tirés soit moindre et aboutisse, je me souviens, le dernier que je crois avoir vu d'après eux, qui était un film aux allures de téléfilm avec Pierce Brosnan, sorti en France de manière confidentielle d'après Les Veuves, qui était une catastrophe. Comment on passe de Hitchcock-Clouseau, qui est quand même... un coup de dé génial, aux veufs. Est-ce que vous pensez qu'ils y sont pour quelque chose? Et Comment le cinéma a fabriqué Boileau-Narcejac?
Alors, je crois
Dominique
que
Jeannereau.
Merci. Je crois que le cinéma les a fabriqués constitutivement dès leurs premiers émois culturels, puisque ils arrivent avec le cinéma. C'est vraiment des enfants de la génération du cinéma, des premiers films, des premiers séries. Ils voient Feuillade, ils voient Le Masque aux yeux verts. Enfin, ils voient beaucoup de choses qui vont inspirer leur imaginaire, leur idée de la terreur. Et ils ont écrit des histoires pour retrouver cette terreur qu'ils avaient éprouvée au cinéma. Alors, lorsqu'ils étaient enfants, leurs économies, ça consistait à aller pour Narcejac, qui était à Saintes, donc aller au cinéma voir ses premiers films muets. Et alors, ensuite, plus tard, lorsqu'ils ont écrit des romans, c'était effectivement un peu avec cette idée de les soumettre au cinéma, notamment c'est Clouzot qui le premier va les découvrir, mais littéralement en 24 heures. Parce que dès la parution de celle qui n'était plus, 24 heures plus tard, le téléphone sonne chez De Noël, Clouzot qui a lu le livre grâce à sa femme, Vera Clouzot, veut l'adapter. Et Hitchcock voulait l'adapter aussi. Donc on pense que De Noël, derrière, ont effectivement démarché rapidement les réalisateurs qui pouvaient être susceptibles de s'intéresser au suspense. Alors, donc effectivement, c'est ça qui leur donne une autorité, parce qu'ils avaient beaucoup eu de mal à publier leur premier roman, parce que c'était pas vraiment des romans policiers, c'est des romans policiers sans policiers.
Alors, il faut dire à nos auditeurs qu'il y a d'abord deux hommes, Pierre Boileau, oui, Thomas Narcejac, qui ont des itinéraires différents, idéologiquement et professionnellement, qui commencent à publier chacun dans leur coin, à développer des réflexions sur ce qu'est un récit policier, ce qu'est un roman noir, ce qu'est un récit d'angoisse, qui se rencontrent, qui finissent par se rencontrer, je crois, lors d'un cocktail
en 1948
aux éditions du Masque, voilà. Et puis qui fusionnent et qui forment pendant 40 ans une sorte de tandem, un peu comme Hillary Queen aux États-Unis.
Tout à fait, qui est un modèle
extraordinaire
pour eux,
de plusieurs dizaines de volumes. Et donc là, il leur arrive le cinéma, puisqu'ils étaient déjà embarqués dans la littérature.
Voilà, ils étaient largement embarqués dans la littérature. Tous les deux avaient reçu le prix du roman d'aventure, qui était le prix pour les éditions paru au Masque, et c'est donc au dîner du Masque qui se sont rencontrés. Boileau l'avait eu en 38, Narcejac 10 ans plus tard en 48. Et donc ils étaient dans des carrières finalement un peu conventionnelles et pas forcément sur le bon cheval, parce que ils étaient dans le roman d'énigmes, hein, les éditions du Masque, c'est le roman classique anglais. Et évidemment après-guerre, ça n'a plus du tout le vent en poupe, puisque c'est le roman noir, c'est le roman de série noire qui a le vent en poupe.
Mais ils protestent donc contre la série noire.
Oui, alors justement, ils sont en train de trouver une troisième voie, on peut dire, entre le roman anglais et le roman américain, qui est le roman de détection d'un côté, le roman anglais, le roman noir américain de l'autre. Et ils vont trouver une voie francophone ou française avec le suspense, justement. Et ça, c'est d'une part un peu le roman d'atmosphère. Alors, le grand auteur francophone, c'est bien sûr Simenon, auquel Narcejac a consacré un essai en 1950. C'est le premier essai, la première monographie sur Simenon, que Simenon avait d'ailleurs aimé. Narcejac et Simenon ont entretenu un rapport d'amitié. Et on retrouve, je pense, dans l'univers du suspense de Boileau Narcejac, beaucoup des atmosphères justement de Simenon, du roman d'atmosphère un petit peu inquiétant qui est fondé sur le réalisme, mais un réalisme qui est déréglé littéralement, où il manque quelque chose et qui rapidement va basculer dans l'étrange, et de l'étrange dans le fantastique, et on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser. Je dirais, Narcejac, c'est un peu du Simenon qui ne se contente pas du croquis, mais qui décrit plus volontiers.
Qui est moins dans la nervure et à l'os, et qui est plus,
voilà, qui est moins à l'os,
dans une espèce d'épaisseur. Hubert,
qu'est-ce qu'ils se sont apportés l'un à l'autre? Boileau avait déjà écrit tout seul, Narcejac avait déjà écrit tout seul. Vous qui avez lu à la fois les individuels et ces collectifs, en quoi il y a quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que Boileau apporte à Narcejac? Qu'est-ce que Narcejac apporte à Boileau?
C'est vraiment une question intéressante. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, en général, on schématise un petit peu. On dit Boileau, le maître horloger du mystère, le roi de l'énigme, le mécanicien, si vous voulez. Alors que Narcejac, c'est plutôt l'horloger, le mécanicien, l'ingénieur. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que Narcejac, c'est plutôt le poète, c'est plutôt le littéraire. Alors, c'est lui qui écrit tout, en réalité. Enfin, c'est-à-dire qui fait la version finale que Boileau, lui, tape. Mais la structure, au début, c'est Boileau qui l'a écrite. Et j'ai retrouvé à l'IMEC deux carnets, un carnet gris, un carnet noir, construits sur toute une vie par Pierre Boileau, qui sont pleins d'idées. Et alors, on voit des choses. Alors, c'est sans date, malheureusement, mais c'est sans doute bien avant D'Entre les morts. On voit déjà un peu l'idée de Vertigo dans un projet comme ça qu'a Boileau, qu'il écrit au fil de la plume. Donc, il donne beaucoup d'idées. Il fournit les structures. Et ensuite, c'est le ping-pong. Il se passe.
Oui, parce que l'un habitait Paris, l'autre habitait Nantes, et ils s'écrivaient une fois, voire deux fois par jour.
Sans compter les coups de téléphone.
Voilà.
Voilà. Oui, et les télégrammes. Alors, il y a aussi des télégrammes. Et parfois, il y a des anecdotes amusantes où la police surprend un télégramme. Le poison ne marche pas, utilisez revolver. Donc, vous voyez que c'est vraiment une amitié très, très proche. Il y a vraiment une relation. C'est deux gamins qui se rencontrent à 40 ans, on peut dire. Puisqu'ils ont vraiment lu les mêmes illustrés, les mêmes romans, les mêmes films, vu les mêmes films. Et puis, enfin, ils peuvent en parler ensemble pour écrire en commun.
Et ils sont restés amis jusqu'à la fin. C'est un duo qui a humainement fonctionné parfaitement, où il y a eu des tentatives solitaires, des moments de déchirure que les éditeurs ont rabiboché parce que malgré tout, c'était des auteurs à gros succès. Ou est-ce que c'était une espèce d'harmonie de vieux couple jusqu'au bout?
Non, je pense que c'est plutôt une harmonie de vieux couple, clairement. Après, les histoires de couple, hein, on sait pas tout, mais c'est vrai qu'ils prennent leur retraite au même endroit, en fait. Hein. L'un à Nice, donc en 67, lorsque Narcejac prend sa retraite de l'éducation nationale, il était professeur au lycée Clémenceau à Nantes, il s'installe à Nice avec sa deuxième femme, et à Beaulieu-sur-Mer, Boileau va venir s'établir, lui avec son frère et sa femme, et donc ils sont juste à côté l'un de l'autre, ils prennent le train, il y a un documentaire télé où on les voit, ces deux retraités, Guy Gray, qui vont imaginer des meurtres encore pendant longtemps, parce qu'ils vont encore publier jusqu'à la mort de Boileau en 89.
Elle claqua la portière, s'enfonça dans le mur grisâtre où son passage fit naître de lentes volutes de fumée. Ravinel resta seul, les mains crispées sur son volant trépidant. Il eut alors la certitude que ce brouillard... Non, ce n'était pas un hasard. Ce brouillard avait une signification précise. Lui, Ravinel, il était là, dans cette boîte de métal, comme au seuil d'un jugement dernier. Ravinel ! Un pauvre bougre de bonhomme, pas méchant au fond. Il se voyait avec ses gros sourcils bourrus. Fernand Ravinel, traversant l'existence, main tendue, comme un aveugle. Toujours le brouillard. À peine quelques silhouettes entrevues. Des silhouettes trompeuses. Mireille. Et le soleil ne se lèverait jamais. Il en était sûr. Il ne sortirait pas de ce pays sans frontières. Une âme en peine. Un fantôme. Ce n'était pas la première fois que cette idée tourmentait Ravinel. Peut-être n'était-il, après tout, qu'un fantôme. Il embraya, fit le tour de la place en première. On voyait, derrière les vitres embuées des cafés, des ombres chinoises. Voilà un extrait de « Celle qui n'était plus » dont fut tiré, bien sûr, les diaboliques de Georges Clouzot en 1955. Là, c'est un petit extrait, j'aurais pu en prendre des dizaines d'autres. C'est l'univers, l'atmosphère clé de Boileau-Narcejac, c'est-à-dire un personnage qui a des troubles d'identité, qui perd ses repères, qui se déboussole au sens fort du mot, qui ne sait plus où est le nord, qui erre un petit peu dans un univers apparemment quotidien et d'un réalisme presque banal et désobligeant. Et puis l'avancée des ombres, le brouillard qui gagne, c'est un peu le fog de Carpenter, le brouillard qui monte comme ça, et puis le personnage est englouti. C'est un peu ça.
Oui, alors c'est le port des brumes de Simenon, c'est le quai des brumes de Carnet. Enfin, c'est cet univers fantomatique. Et effectivement, vous avez lu le mot fantôme. Il apparaît souvent. Leurs histoires sont souvent des histoires de fantômes, des histoires de revenants, de femmes justement comme dans Celle qui n'était plus ou dans D'entre les morts, de femmes qui voilà qu'on croyait mortes et qui ressuscitent. Il y a presque un côté d'ailleurs mystique et de résurrection dans ces livres. Narcejac était très catholique, comme Hitchcock d'ailleurs, hein, et ce côté résurrection. Est assez intéressant à lire là-dedans. Mais c'est vrai que... chez Clouzot, c'est évidemment beaucoup plus lugubre, hein, la résurrection. Alors, il a inversé les rôles, bien sûr. Hein, ce qui était une femme devient un homme, puisque c'est Paul Meurice qu'on voit faire une résurrection. Alors elle, qui tient beaucoup plus de Frankenstein lorsqu'il sort de la baignoire, ce côté hallucinant, monstrueux, qui pourrait être presque... too much, hein. Il y a presque un côté trop dans l'horreur, et Narcejac et Boileau n'étaient pas très convaincus. Ils s'étaient sentis trahis en réalité par l'adaptation trop horrifique, hein, trop de films d'horreur de Clouseau. Mais Clouseau, vraiment, bien sûr, était connu pour le choc, pour la violence, le choc des images, et c'est vraiment ce qu'il a fait là.
Attention, écoutez.
Ce sera aujourd'hui ou jamais.
Et tu es sûr que ça laisse pas de traces?
Et le scandale, tu imagines le scandale?
Ça ne peut finir que d'une façon. Sans des monstres, Dieu n'aime pas les monstres.
Oh, j'ai la tête qui éclate, moi. Je vis une histoire de fou.
Ce n'est pas une histoire de fou, c'est une histoire diabolique.
Qui est là?
Allô, qui est là? Répondez, nom de Dieu!
Voilà, la bande-annonce des diaboliques, Jean-Baptiste Torrent. On savait faire des bandes-annonces à l'époque.
Oui. Il y en avait, c'est pour ça que les gens les regardaient. Maintenant, les gens ne les regardent plus vraiment dans les cinémas, ils sont sur leur portable. Non, je me disais, alors, sur un scope beaucoup plus réduit, n'étant pas du tout un spécialiste comme notre invité de Boyer-Narsejac, moi je connais Boyer-Narsejac à l'origine par les films qui ont été adaptés, évidemment, Vertigo et Les Diaboliques, enfin Clouseau Hitchcock. Je me disais que le point commun, en fait, de ces deux films, c'est qu'on a à chaque fois cette idée que quelque chose qui devrait être présent manque à l'image, et quelque chose qui devrait être absent à l'image y est présent. Et je pense que c'est l'étrangeté, le suspense, enfin, cette espèce de dérèglement dont vous parliez, ou cette façon dont les personnages se sentent déboussolés, vient de cette espèce de problème-là, qui est un vrai problème de cinéma, et on peut comprendre pourquoi Boileau et Narsejac, indépendamment de la mécanique scénaristique, on pourrait presque dire, voilà, la dimension horlogère dont vous parliez, et bon, ça c'est très bien, c'est de l'histoire, mais faire du cinéma, c'est prendre des images et des sons et de certaines manières se convertir les problèmes du récit en des problèmes de cinéma. Et cette espèce de, finalement, on pourrait presque dire de conflit entre une présence et une absence qui est absolument jamais réglée, ouvre la porte à Hitchcock et à Clouseau, et les deux films sont absolument géniaux pour ça. Et la question que je me posais, moi, en vous écoutant, c'est est-ce que vous seriez capable, j'imagine que oui, mais est-ce que vous seriez capable de, finalement, d'isoler un principe, on pourrait presque dire esthétique ou formel, dans l'œuvre de Boileau-Narsejac, indépendamment de la question du suspense.
Dominique Jeannerod.
Merci beaucoup pour cette question qui me prend, je vous avoue, un peu de cours. Je pense qu'il y a cette idée d'un double récit qui est vraiment un principe important chez eux, qui a tout ce qui semble être l'apparence. Effectivement, on a comme l'impression d'une vis qui se resserre, d'un étau qui prend jusqu'à la suffocation le personnage principal. Et derrière, il y a un contre-récit. Il y a quelque chose qui nous donne à voir finalement, le roman. Enfin, il y a à la fois le roman à suspense, et puis il y a le roman vrai, il y a le roman de l'âme, il y a ce qu'il appelle un thriller, en fait, hein, pour Narsejac. Alors, je cite plutôt Narsejac que Boileau là-dessus, parce que Narsejac avait écrit une préface à Graham Greene. Et pour lui, Graham Greene, c'est vraiment le maître du suspense, plus que des gens comme John Buchan, qui sont le thriller d'action. Pour lui, c'est le thriller métaphysique, c'est le frisson métaphysique. Alors, je crois que ça, et c'est vraiment la difficulté de transposer ça en image, et c'est ce qu'a vraiment très bien fait, merveilleusement fait Clouseau, je pense, c'est de transposer l'individualité d'un personnage qui doute, d'un personnage de coupable qui a tué sa femme et qui regrette Ravinel, hein, un personnage fantomatique, mais aussi fantomatique moralement, parce qu'il est complètement fluctuant, il vient de faire une chose affreuse sous l'influence de sa maîtresse et qui regrette immédiatement après l'avoir fait. Et donc un personnage qui est à la fois paralysé par les doutes, par la culpabilité, par la peur d'être pris. Il y a ce commissaire joué merveilleusement par Charles Vanel, hein, qui arrive dans l'histoire, qui est quand même très inquiétant. Bon, donc il y a ça. Et alors Clouseau a transposé tout ça très bien, justement, au lieu de montrer, je crois, l'individualité du personnage de Ravinel, qui est tout seul en fait, en réalité, parce qu'il reçoit des lettres parfois de cette femme qui a disparu. Alors ça l'étonne beaucoup, mais là ça se passe chez Clouseau dans une école, hein, vous voyez bien, dans un collège. Donc au contraire, il est au milieu de la collectivité, il est au milieu d'une espèce de situation humaine qui montre en fait sa solitude en creux. Et ça fait partie des choix, je crois, qui ont été faits par Clouseau, oui. qui ont vraiment bien rendu compte, en faisant quelque chose de tout à fait différent, qui ont vraiment bien rendu compte de cette âme qu'il y a dans les livres de Boileau-Narsejac.
Et puis il faut aussi dire que Clouseau à la fois adapte le roman, le transpose, mais se l'approprie. Et quand on arrive chez Clouseau, le mal devient d'une certaine manière le carburant général. Ah, et, ouais. Et on pourrait presque dire qu'il introduit une forme de mal pur, en tout cas un mal clousautien à l'intérieur du roman original. Ouais. Quoi.
Oui, sexuel même d'ailleurs aussi. Bien sûr. Hein. Ouais, ouais.
Ils ont pas mal théorisé Boileau-Narcejac, ils ont écrit sur le polar, ce que beaucoup d'auteurs n'ont pas fait, en accordant au genre un sérieux qui était pas totalement unanime à l'époque. Quelle était leur vision du polar? En quoi a-t-elle été servie ou desservie par les films qu'on en a tirés? Quand vous dites par exemple qu'ils se sont trahis par Clouzot, qu'est-ce qui, dans leur vision à eux du polar, n'était pas celle de Clouzot ou peut-être pas celle de Hitchcock ou...
Oui, parce que vous avez raison, ils se sont aussi sentis trahis par Hitchcock, hein, par les deux, puisque effectivement chacun a pris des libertés très grande. Hitchcock, par exemple, a complètement redéfini leur notion du suspense, alors qu'ils étaient les maîtres du suspense. Hitchcock aussi était un maître du suspense. Alors, c'est suspense contre suspense. Et vous savez l'histoire de Vertigo, bien sûr, quand Hitchcock introduit finalement à deux tiers du film, il nous dit finalement ce qui s'est vraiment passé. Il y a ce fameux flashback où on sait finalement qui est Madeleine. On sait que Judy Barton est Madeleine Elstir, que c'est la même personne. Alors que dans le roman, on apprend ça seulement à la fin. Donc, il y a une contribution ici de Hitchcock, je crois même, à la définition du roman de la victime, qui est une des choses pour lesquelles ils sont connus, Boileau-Narcejac, pour avoir défini le roman à suspense comme un roman de la victime. Et là, finalement, Hitchcock, en nous permettant de voir, d'en savoir plus que ce pauvre Scotty Ferguson, qui est le personnage du détective, on est nous-mêmes dans une position qui surplombe Scotty, et donc il devient lui-même vraiment la victime de la machination. Et ça, je pense que Hitchcock l'a montré à Boileau-Narcejac. Boileau-Narcejac n'y pensait pas de cette façon-là. Alors, pour répondre à leur conception du polar, ils le prennent très au sérieux. C'est pour ça que le pamphlet...
Il y a même l'article dans ce quarto, il y a une très grosse partie consacrée à tout ce qui est réflexion théorique, historique, sur l'histoire du roman noir ou du roman policier, et il y a l'article écrit pour l'encyclopédie de la Pléiade à la demande de Raymond Queneau. Article remarquable,
vraiment brillant, alors qui date de 56, qui est vraiment, qui est publié plus tard en 58, et qui a véritablement, en une trentaine de pages, fait une histoire du genre qui est vraiment merveilleuse et qui l'inscrit dans la littérature générale. Enfin, il n'y a aucun doute pour Narcejac. Et donc, ce fameux pamphlet que vous avez cité tout à l'heure contre le roman noir américain qui s'appelle La fin d'un bluff, et c'est sur le roman noir américain qui date de 49, c'est précisément parce qu'il prend le genre au sérieux, et même le noir. Moi, je pense que Narcejac est un auteur plus noir que Boileau, par exemple. Boileau est resté jusqu'au bout quand même intéressé par les questions d'énigmes et de romans problèmes, c'est-à-dire le roman anglais, d'une certaine manière. Alors que pour Narcejac, c'est vraiment le roman d'atmosphère, le roman de personnages, le roman aussi de violence. Et donc, ce qu'il critique dans le roman noir américain, tel qu'il est, il faut le dire, quand même aussi publié dans la série noire, c'est-à-dire plus une attaque, à mon avis, contre la série noire de Duhamel.
L'argot, les traductions.
C'est ça. Okay, les traductions fantaisistes, l'argot un petit peu racoleur, enfin toutes ces choses-là, qui ont créé une langue, hein, que Truffaut parlait d'une langue qui n'existe pas, mais qu'il aimait, hein, la langue de la série noire. C'est pour ça qu'il a fait des adaptations, comme Goudis, hein, par exemple, tiré sur le pianiste. Donc c'est une langue qui a eu un énorme succès en France, c'est une langue qui a été créée à partir de nulle part. Et pour Narcejac, lui, c'était pas ce qu'il aimait dans le roman noir, parce que précisément, il voyait la force littéraire de ce genre.
Vertigo, a feeling of dizziness, a swimming in the head. Figuratively, a state in which all things seem to be engulfed in a whirlpool of terror, as created by Alfred Hitchcock in the story that gives new meaning to the word suspense.
C'est le trailer de Vertigo dans cette anthologie très riche que vous consacrez donc à tous les propos théoriques et historiens de nos deux hommes dans ce quarto sur Boileau-Narcejac, Dominique Jeanneret. Il y a cette phrase que j'ai notée, comme si le mal devenait regard. À un moment, on parle du mal qui devient comme le regard. La peur s'est tellement intériorisée qu'elle se confond avec le regard. C'est peut-être ça la réussite ultime de Boileau-Narcejac. Il n'y a plus besoin de manipuler les accessoires de la terreur, les grincements comme on en a entendu là. La peur est là de manière tellement patente, évidente, première et fondamentale qu'il suffit d'engager le récit.
Oui, ce qui est un peu le roman de Caïn. D'ailleurs, il définit le thriller comme le roman de Caïn dans La Légende des siècles de Victor Hugo. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn.
Regardait Caïn.
C'est un petit peu ça, ce sentiment de la conscience coupable qui est constamment dans leurs œuvres. C'est vrai qu'on le voit, ça. Et on ne l'a pas vu après d'autres auteurs, effectivement, pour répondre à la question à laquelle je n'avais pas répondu, pourquoi il y a ce tel déclin entre Clouzot. Alors, je crois qu'on n'a pas parlé d'un film qui est merveilleux, à mon avis. C'est peut-être le meilleur film qui a été tiré auquel ils aient collaboré, c'est le film de Franju, Les yeux sans visage.
Le vrai film Boileau-Narcejac, ouais, c'est celui-là, bien sûr.
Pour moi, c'est vrai. Alors, ils ont été scénaristes, ils n'ont même pas été les principaux scénaristes d'ailleurs. C'est une adaptation d'un livre qui était paru dans la collection Angoisse, au Fleuve Noir, de Jean Redon, qui n'a rien écrit tellement à part ça.
Jean Redon, Angoisse Fleuve Noir, donc auteur. Oublié aujourd'hui.
Oublié. Il y a une dédicace à Frédéric Dard, ce qui toujours, lorsque c'est dédicace à Frédéric Dard, il y a toujours des suppositions. Est-ce que Frédéric Dard aurait eu une main dans ce livre-là ou non? Alors, on le saura sans doute jamais. Mais, en tout cas, Redon a participé au scénario du film de Franju, avec Pierre Gascard également pour les dialogues. C'est un film merveilleux. Alors, j'ai pu retrouver, grâce à Francis Lacassin, dans les archives qui sont à l'IMEC, deux états du scénario, un synopsis et un scénario de Boileau-Narcejac pour ce film. Et c'est intéressant de voir comment ça diffère d'ailleurs, comment leur vision à eux diffère de la version qui a été filmée par Franju à la fin. Mm-hmm. Mais c'est un film merveilleux.
Hubert,
vous leur voyez une descendance dans le polar français d'aujourd'hui ?
D'aujourd'hui, peut-être moins que dans les années 60, où il y a l'école suspense de Noël. Et là, il y a des auteurs comme René Réhouven, Jean-François Goatmeur, voilà, tous ces gens, Tanugi aussi, Gilbert Tanugi. Voilà, il y a effectivement, si on lit les auteurs de polar dans la collection suspense, d'ailleurs le titre même, il y a une collection sueur froide, d'ailleurs suspense et ensuite sueur froide, donc bien sûr c'est un hommage à... Et les gens qui publient là, oui, effectivement, ils sont souvent... Même Japrizo, en réalité, qui est le plus grand sans doute, bien sûr, de l'école du suspense à la française, mais enfin, il n'est pas... Et même Frédéric Dard, en fait, d'une certaine manière. Frédéric Dard, des romans de la nuit, pas Le San Antonio, ouais, mais...
Venin, cette mort
voilà,
dont
exactement,
tu parlais.
Où il a le bourreau pleure, tous ces romans qui sont très brefs, qui sont un petit peu des schémas des Boileau-Narcejac, un peu les romans que Pierre Boileau presque aurait pu écrire si Thomas Narcejac n'avait pas lui-même mis son écriture. Des romans beaucoup plus brefs qui ne sont pas des scénarios de film, en réalité.
Mais ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est qu'effectivement, là, moi, ça fait très longtemps que je n'avais pas relu Boileau-Narcejac. C'est vrai, le fait qu'il soit totalement indemne, entre guillemets, de toute problématique idéologique, règlement de compte historique, cadrage un peu trop précis, trop anecdotique, qu'il soit entièrement sur des personnages dont la terreur rend universelle, on peut le dire, un peu à la manière de Simenon, fait qu'on pourrait... On relit aujourd'hui sans problème Boileau-Narcejac. On peut dire ah bah oui, c'est quand même les années 60, c'est le polar de papa, non.
Ah oui,
c'est quelque chose, c'est profondément Hubert. Ouais.
Non, complètement, c'est effectivement. Et le fait qu'il n'ait pas une descendance, comme vous le disiez, à ce point marqué, montre aussi leur originalité et que c'était pas juste des trucs qu'on pouvait copier jusqu'à plus soif pour reproduire ce qui ne sont que des mécaniques. C'est vraiment autre chose. Et la comparaison avec Simenon s'impose par l'humanité des personnages, par les milieux sociaux décrits, par cette attention aux ambiances, aux atmosphères. Enfin, ce sont de vrais écrivains qui ont existé et qui, aujourd'hui, sont encore inimitables.
Je suis ravi que vous lisiez, parce que pour moi, ça a été presque une découverte, en fait, en les relisant. Je les avais lus quand j'étais enfant, donc il y a très longtemps, et en les reprenant, je me suis presque dit que le titre du quarto, du roman à l'écran, c'est pour être l'inverse de l'écran au roman. On a déjà tellement vu les films qu'il est temps de redécouvrir de redécouvrir les romans.
Tout à fait.
Et on les lit avec vraiment un énorme plaisir, tellement ils sont bien écrits, tellement ils sont riches.
Donc à lire les 7 romans proposés par ce volume quarto dirigé par Dominique Jeannerot, et puis joint à ces 7 récits, toute une très très riche anthologie d'articles, de préfaces, d'introductions, d'entretiens qui définissent un véritable dictionnaire Boileau-Narcejac. Et j'avoue, le propos est toujours extrêmement passionnant. C'est clair, c'est percutant, c'est intelligent.
Effectivement, on peut discuter cette espèce de d'écart permanent entre le récit de terreur et le récit d'enquête, l'un trop sec, l'autre un peu informe. On peut discuter de tout ça. L'enquête pouvant être elle aussi effrayante en elle-même. Elroy nous l'a montré. Mais ça n'empêche que il faut aujourd'hui relire Boileau-Narcejac. C'est tout à fait une expérience tout à fait extraordinaire. De même qu'il faut continuer de regarder les films de John Carpenter. On écoute un extrait de le trailer de Prince of Darkness.
Anyone in close proximity has the same dream.
What is it?
A secret that can no longer be kept. It started a month ago.
What started?
A change in the earth and the sky. His power.
There's a weird locking mechanism. Looks like it can only be opened from the inside.
A life form is growing out of prebiotic fluid. It's not winding down into disorder. It's self-organizing. It's becoming something. What?
Prince of Darkness, donc Back to the Moon, 27 ans après. Jean-Baptiste Torré revisite l'univers de John Carpenter. Alors, je reprends la phrase là où je l'avais laissée. Ce qui est frappant, c'est la liberté que vous avez aujourd'hui, Jean-Baptiste, pour vous promener à l'intérieur de cet univers que vous connaissez seconde après seconde et où vous pouvez, d'une certaine façon, lancer tous les débats, toutes les problématiques, qu'elles soient métaphysiques, politiques ou esthétiques.
Oui, bon, en fait, 27 ans, c'est long. C'est-à-dire que c'est quand même, quand j'avais écrit ce premier livre avec Luc, on était vraiment, encore une fois, des novices. On savait peu de choses. On avait beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'amour pour le cinéma de Carpenter, mais on savait peu de choses. Et d'ailleurs, quand j'ai revu, suite à la énième proposition d'un éditeur de republier ce livre qu'on ne voulait pas republier avec Luc, j'en ai profité d'ailleurs pendant une semaine pour revoir toutes les nuits les films de Carpenter, en me disant, en voulant faire le point, tout simplement, de mon rapport à Carpenter. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en prenant des notes tous les soirs, j'avais 50-60 pages de notes à la fin, qui étaient totalement différentes du contenu même du premier livre. Mais cette liberté-là, en fait, elle vient du fait qu'effectivement, les films de Carpenter, comme d'autres, évidemment, tapissent mon cerveau, comme le vôtre un peu, François, depuis des décennies maintenant. Et j'avais en fait envie de préciser. Pour moi, je dirais que la ligne de force du film, ça a été de trouver la ligne claire du cinéma de John Carpenter et de préciser le rapport. Alors, Back to the Bone, que vous appelé Back to the Boone, je précise pour l'auditeur, c'est Boone, pas Boone.
Boone, oui, décidément.
Il n'y a pas de Daniel dans les parages, il n'y a pas de trappeur. Mais l'idée du livre, pour moi, c'était vraiment de préciser le rapport, mais c'est presque une sorte de défi conscience à soi-même. C'est que, effectivement, par exemple, on parle très souvent du rapport de Carpenter à la politique, du rapport de Carpenter au conservatisme, au progressisme, et j'avais envie d'être un peu précis là-dessus, parce que la critique française notamment, pas uniquement, mais a souvent un peu simplifié, voire tordu les films de Carpenter pour permettre une forme de reconnaissance. Et si on veut être précis sur le cinéma de Carpenter, c'est un cinéma qui est complexe, qui est pas du tout, on pourrait dire, qui s'intègre très difficilement en fait au cinéma de son époque, aussi bien le cinéma des années 70, période pendant laquelle il émerge, que le cinéma de genre et de ses différents collègues qui s'appellent Cohen, Romero, Toby Hooper, Wes Craven. On voit que Carpenter est d'une autre trempe, et y compris même politiquement, et y compris dans son rapport en fait aux périodes de référence qui sont grosso modo le western classique d'avant la crise. Quand Carpenter fait Assaut en 76, il est à peu près le seul à nous dire il faut ressusciter le western classique. À une époque où on vient d'avoir Soldat Bleu, Little Big Man, Jeremiah Johnson, ce western classique américain qui va être détruit par le cinéma des années 70, hein, plus de héros, le massacre des Indiens avec évidemment le fantôme de l'ère Vietnam, etc. Carpenter, lui, nous le dit, mais c'est dès son premier court-métrage, The Resurrection of Bronco Billy. C'est presque une pétition de principe, un manifeste. Il nous dit, mais moi, j'ai envie de ressusciter le Howard Hawks et même le John Ford d'avant le style tardif. C'est-à-dire des vrais héros, des vrais personnages, un rapport clair au bien et au mal. Carpenter, c'est pas un cinéaste du gris. Il a même une hantise, une horreur absolue du gris ou du gris clair ou du gris foncé. Et je pense que tout son cinéma à une époque qui baignait intégralement dans le gris a été de retracer des lignes claires, ce qui explique même d'ailleurs son style. Ce qui frappe quand on voit un film de John Carpenter, même pour des gens peu aguerris ou qui n'ont pas forcément vu des milliers de films, c'est la capacité qu'on a à repérer le style de Carpenter en 3, 4, 5 plans. Et je crois que ça vient vraiment de sa capacité en fait à toujours trouver le sens exact d'un plan, ce que chaque plan doit raconter, une forme d'épure qui tranche plutôt avec l'encombrement qui a été la marque du cinéma des années 70. Et c'est un peu tout ça en fait que j'avais envie d'explorer en étant total. Et la liberté passe aussi par le fait de n'avoir aucune obligation ou contrainte d'ordre exhaustif. C'est pas du mur. Il y a des films qui ne m'ont jamais vraiment intéressé. Ces derniers films passent complètement à l'as. Ghost of Mars, même si Les Cahiers, on avait parlé comme d'un western spinoziste, reste enfin, à mon avis, un film relativement faible. The War, je n'en parle même pas. Donc en fait, j'ai voulu être au plus près de, mais même, on pourrait presque dire subjectivement, de mon rapport à Carpenter et en découvrant d'autres films. Par exemple, Christine est un film.
Voilà, il y a trois films qui émergent un peu plus. Émergent. Il y a d'une part The Live, ouais. Mm-hmm. Et ensuite, il y a Christine, vous faites toute une analyse. Et puis, Prince of Darkness, ouais. Avec ce qui est pour moi le moment le plus fort du livre, toute une analyse sur l'ontologie du mal chez John Carpenter, en montrant que Carpenter n'est pas pour une sorte de fatalité historique, pas de fatalité même, de processus historique de constitution du mal et de la malignité, qui serait le cas de Toby Hooper dans Massacre à la tronçonneuse, mais pour une sorte d'adhésion à une vision ontologique, kantienne, mystique, on peut le dire, du mal, qui est une sorte de miasme ou d'essence première négative. Il y a une négativité autonome chez Carpenter. Oui.
Mais dans la phrase que vous venez de prononcer, François, il y a énormément de paradoxes qui sont la matière du film de cinéma de Carpenter. C'est-à-dire que John Carpenter, la question du mal qui a toujours obsédé évidemment le cinéma fantastique ou le cinéma d'horreur, dans les films des années 60-70 et particulièrement dans les années 70, a toujours été la question du mal contingent. Grosso modo, le mal est toujours l'œuvre de la société, d'un environnement familial, de tare familiale.
Ça, c'est
massacre à la tronçonneuse, d'un désastre écologique, d'une localisation géographique précise comme le Texas. Et moi, je pense que Massacre à la tronçonneuse, que je tiens par ailleurs pour le plus grand film d'horreur de l'histoire du cinéma américain, Massacre à la tronçonneuse est presque l'antithèse, le contre-champ absolu de ce qu'est le cinéma de Carpenter. Et dans le livre, à un moment, je m'amuse à comparer en fait deux plans similaire, je pense que les auteurs les auront en tête, la fin du prologue d'Halloween lorsqu'on découvre le visage de cette petite bouille d'ange qui vient de tuer à coups de couteau sa jeune sœur, et puis le moment où Leatherface, donc face de cuir, le tueur de Massacre à la tronçonneuse, vient aussi de tuer une victime, et on voit que Toby Hooper et Carpenter vont à ce moment-là utiliser le même plan, allant chercher le visage, d'une certaine manière, du tueur, dont on vient de découvrir l'identité. Mais là où le style de Toby Hooper nous rapproche de ce visage-là, et on découvre à ce moment-là une horrible dentition, un regard. Le plan de Carpenter, à partir du même cadrage, fait le mouvement exactement inverse et s'en éloigne. Ce qui veut dire, en des termes extrêmement simples, que Toby Hooper, qui est totalement emblématique du 50-70, Romero, les zombies, c'est nous, par exemple, c'est que Carpenter, lui, Toby Hooper va chercher l'humanité dans quelque chose qui a été présenté dans la première partie du film comme monstrueux. Autrement dit, il va chercher l'humain à l'intérieur du monstre et donc faisant de ce monstre-là finalement une victime. Carpenter, il fait le trajet exactement inverse. En fait, il s'éloigne de ce gamin à la tête d'ange pour de cette manière en faire une abstraction, montrant l'interlocution absolument impossible avec ce qui n'est plus un mal contingent comme le pauvre Leatherface, parce que c'est le pauvre Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse. Là, il en fait une certaine manière, une des premières figures d'un mal radical, irréductible. Il y a vraiment dans le cinéma de Carpenter la croyance absolue qu'il y a un mal radical qui est l'autre, avec un A capital, qui est l'autre de l'humain. Et une fois qu'on a compris ça, on a compris, un, ce qui va orienter sa façon de mettre en scène les films, et on comprend aussi son anachronisme, on va voir la différence par rapport à tous les autres cinéastes de sa génération, puisque évidemment, croyant à un mal radical, d'une certaine manière, Carpenter est aussi un cinéaste puritain.
Station 31, you read me? Found something in the ice. We need some help down here. Can anybody hear me? We found something. We found something.
Men have just discovered something. For 100,000 years, it was buried in the snow and ice. Now it has found a place to live. Inside. Where no one can see it. Or hear it. Or feel it.
I know I'm human. Some of you are still human. This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation. It'll fight if it has to. But it's vulnerable out in the open. If it takes us over... And it has no more enemies. Nobody left to kill it.
Voilà le trailer de The Thing. L'autre, on parlait de l'autre. Alors l'altérité absolue, là, Jean-Baptiste, qui vient d'ailleurs.
Bah, The Thing s'écrase au pôle. Voilà. C'est, il faut rappeler que le film sort en 82, que c'est un échec public et critique commerciale absolument colossal. On connaît l'histoire. Il sort au même moment que E.T. Le peuple américain qui a deux ans plus tôt a élu Ronald Reagan et qui maintenant vit au rythme de Sylvester Stallone, de Rambo 2, de Grease, etc., a envie d'autre chose que d'un film totalement nihiliste et déprimant comme The Thing, évidemment. Alors The Thing est un chef-d'œuvre, c'est peut-être le chef-d'œuvre du cinéma de Carpenter. Moi, il y a deux choses qui m'ont toujours intéressé dans The Thing, on pourrait dire. La première, c'est la façon dont c'est un film qui s'inscrit là pour le coup dans le contre-champ de 2001, et on voit bien que 2001, qui est un film qui a marqué le jeune Carpenter, mais qui l'a marqué presque négativement, c'est-à-dire qu'il lui a donné une matière ou en tout cas de quoi penser contre. On se souvient du 2001 qui est fondé autour de
le monolithe.
De l'exégèse de ce monolithe. Là, dis-moi si tu comprends le monolithe, je te dirais en gros le niveau de ton QI. Ça, Carpenter déteste absolument, parce qu'à l'époque, effectivement, on a le sentiment, et c'est beaucoup écrit, qu'avec 2001, l'intelligence est invitée dans l'espace, qui pour Carpenter, qui a eu ses premiers chocs devant Jack Hardoyle, William Cameron Mindy, etc., est une pure aberration.
Donc, des séries B de science-fiction.
Absolument.
C'est ma populaire.
Et donc, The Thing, la fameuse chose, elle aussi produit son désir d'interprétation, évidemment. Quelle est la chose? Quelle est sa forme terminale? Qui, à la fin, a survécu, etc.? Mais il me semble, à mon avis, que le film est vraiment dans le contre-champ de 2001. C'est-à-dire que The Thing, c'est la façon de pour Carpenter de coucher le monolithe et de le mettre à hauteur d'homme, ou plutôt de quitter le Gotha hollywoodien, les intellectuels de la côte ouest américaine, pour d'un seul coup s'adresser aux camionneurs du Midwest. Je pense que c'est vraiment ça, The Thing. Et la deuxième chose absolument géniale, c'est le paradoxe que tous les amateurs du cinéma d'horreur, ou tous les Lovecraftiens, et je pense qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, se posent en permanence, à savoir comment montrer, c'est un film très Lovecraftien évidemment, The Thing, comment montrer l'immontrable. Et là, Carpenter invente une idée absolument géniale, que Eisenstein avait lui-même théorisé 70 ans plus tôt, à savoir que pour la meilleure façon de cacher quelque chose, c'est de la montrer intégralement. Et donc The Thing, on n'arrête pas de voir une série d'aberrations organiques, peut-être un festival, l'un des derniers à l'époque des effets avant les CGI organiques à l'écran. C'est un film qui est par moments répugnant, c'est un festival de vision tératologique absolument monstrueuse. Et pour autant, si on demande à quelqu'un, est-ce qu'on a vu la chose, ben on n'a absolument rien vu. Et cette espèce de contraste, on pourrait dire, entre une hyper-monstration, je sais que vous aimez le terme, François, oui, entre une hyper-monstration et une abstraction totale, ça, pour moi, The Thing est l'exemple absolument brillant de cette stratégie, à la fois de mise en scène et esthétique. Hein. On n'avait jamais vu ça jusque-là. Et je cite à un moment le chat Cheshire, évidemment, de Lewis Carroll, qui m'a beaucoup intéressé, puisque le chat de Schrödinger est cité dans Prince of Darkness, comme un paradoxe, comment faire pour qu'une image... ou qu'un œil humain puisse capter en même temps l'état vivant et mort d'un individu. Là et pas là, présent et absent. Et en fait, on pourrait presque dire que le mal dans The Thing, vu qu'on ne verra jamais son visage, on n'atteindra jamais le bone, l'os de The Thing, bah le mal, c'est l'expression du mal. Et moi, j'ai toujours trouvé que le moment dans Alice au Pays des Merveilles, lorsque le chat disparaît, ne laissant en suspens que le sourire, en fait, ce sourire-là, c'est le sourire des visions tératologiques de The Thing. Pas besoin d'avoir, finalement, une vision de la chose, on a son sourire. Et ce sourire-là, c'est le mal. Ça suffit.
Y a-t-il un film dont vous parlez beaucoup? C'est Christine. Alors là, on est dans un rapport au passé, un rapport aux années 50, Jukebox et autres.
Oui, voilà autre film qu'à l'époque je manque complètement, 97-98, The Thing, pour moi, une adaptation parmi d'autres. C'est le moment où tous les bouquins de Stephen King sont adaptés. Il y a eu David Cronenberg, Carrie, Shining de Kubrick, etc. Et pour moi, Christine est un film mineur qui vient, après l'échec de The Thing, une manière pour John Carpenter de montrer un peu patte blanche auprès des studios et de rentrer dans le rang et de faire office de professionnel ou d'artivant à peu près doués. Or, en revoyant The Thing, en fait, que je tiens pour un des films, à mon avis, importants de Carpenter, on voit bien que The Thing est un film sur le rapport entre les années 80 et les années 50. On sait que les années 50 ont été, dans l'imaginaire des années 80, et notamment dans le slogan MAGA, inventé par Ronald Reagan en 80, Make America Great Again, ça vient vraiment des années 80. Great Again, ça veut dire quoi? C'est que ça a été formidable, et Again, ça veut dire que ça a été formidable une première fois. Et dans tout l'imaginaire des années 80 et tout le cinéma hollywoodien des années 80 est hanté et obsédé par les années 50 comme si c'était cet âge d'or qu'il fallait ressusciter. Et John Carpenter va faire un film contre cet âge d'or, comme Zelig est aussi un film contre les années 50, en nous disant, voilà, vous pensez que l'âge d'or, les interactions du cinéma de l'Amérique, ce sont les années 50. Moi, j'ai connu les années 50 un peu différentes. Carpenter a été enfant, jeune adolescent dans le Kentucky sudiste, au moment de lynchage des Métis, des lois Jim Crow, de la ségrégation raciale. Et pour les années 50, c'était pas uniquement le rock, Elvis Presley, la voiture et les frigidaires pour les femmes. C'était pas uniquement ça. Et donc il fait un film via cette Plymouth Fury 57, hein, qui à faveur d'un prologue qu'il écrit et qui n'est pas dans le roman original de King, il en fait une version cauchemardesque d'une décennie, les années 50, qui s'impose aux années 80, qui la manipule, qui la vampirise et qui la détruit. Et politiquement, c'est en fait un des films les plus forts de John Carpenter, de la manière que dans Zelig, les extraterrestres de Zelig ressemblent à des espèces de bestioles ridicules issues des années 50. Et je pense que cette espèce de rapport entre les années 80 et les années 50, qui a été imposé par Hollywood en cinéma hollywoodien des années 80, devient pour Carpenter la matière même de la critique. C'est pas le seul, hein, au Eastwood, quand il fera Un Monde Parfait, très ironique, qui se passe juste avant l'assassinat de JFK en 63, en fait, fait aussi un film sur, vous pensez que JFK a mis fin à l'innocence américaine, c'est donc qu'il y avait de l'innocence juste avant son assassinat, on va voir de quelle innocence il s'agissait, et ça c'est Un Monde Parfait, qui est un film réalisé 10 ans après Christine, mais en fait qui s'inscrit en fait dans les mêmes pas.
Alors on parlait de l'ontologie du mal de John Carpenter, elle est certes l'objet d'une réflexion de cinéaste, de poète et d'individu, mais elle est aussi marquée par d'expériences personnelles de rencontres. Il y avait là un enfant. Son visage n'était pas humain, mais littéralement. Ses yeux étaient comme du feu. Il brûlait du désir de me tuer, de tuer le monde entier. Je n'ai plus jamais revu un visage pareil. Il va de soi que j'ai projeté sur ce visage des choses qui se trouvaient à l'intérieur de moi. Mais il était absolument terrifiant. On ne le laissait pas s'approcher de nous parce qu'il était au-delà de la violence. Il avait tué plusieurs personnes. Je ne réussis pas à décrire l'émotion que j'ai ressenti, mais je l'ai regardé dans les yeux, je l'ai su. J'ignore la cause qui l'avait réduit dans un état pareil, mais c'est évident que son visage a hanté mes rêves. En y repensant, je me dis que j'ai été confronté à un être humain qui avait perdu son humanité. Il ne me regardait pas comme un objet, mais voulait me détruire. Cette rencontre a vraiment représenté un tournant dans ma vie. Voilà, ça c'est une expérience, les personnages de...
Ce qui est un entretien en fait que Carpenter a donné à l'époque de la rétrospective qui lui était consacrée à Turin, il l'a redit, en fait, laissant quand même une sorte de mystère autour de cette première rencontre en tant qu'enfant, en gros dans un asile psychiatrique, et on se souvient des premières phrases du docteur Loomis joué par Donald Pleasance dans Halloween, voilà. Lorsqu'il explique à l'infirmière qui vient des années 70, c'est un film de 78, et qui lui dit mais quand même, c'est une victime, le pauvre, il a dû avoir un environnement familial, etc. Il lui dit je vous arrête tout de suite, on est dans un film de Carpenter, et c'est le mal à l'état pur. Donc ça c'est très intéressant parce que on voit que cette question du mal, moi j'invite les auditeurs à revoir Asso et à repérer combien dans Asso en fait une première partie du film donne le sentiment que John Carpenter va faire un film comme dans les années 70, un film un peu sociopolitique, et à mi-temps, au moment où une petite fille se fait tuer pour avoir demandé une glace à la fraise, on bascule du mal contingent au mal radical pour toujours.
Scène d'ailleurs qui a été coupée dans énormément de versions du film et qu'il est assez rare de voir ce meurtre de la petite fille.
Jean-Baptiste Torré, John Carpenter aux éditions Magnani, Back to the Bone, donc revisitation 27 ans plus tard de l'univers de Carpenter. On passe aux chroniques maintenant avec vous, Esther Teilhard dans Mauvais Genre.
Héroïne mauvais genre à l'honneur ce soir. Nathalie Clifford Barney, René Vivien, Romaine Brooks, Gertrude Stein, Virginia Woolf, Sarah Bernhardt, Lina Polanti, Colette. Anarchie totale avec cet étrange ouvrage publié chez l'imaginaire Gallimard, Après Sappho, de Selby Wynne Schwartz. Sorte de cadavre exquis entre la biographie, le roman, le recueil de poèmes, le pamphlet ou l'incantation. Après Sappho ne ressemble à personne, à l'image des excellentes sapphistes dépeintes à l'intérieur. Parce que les vérités des femmes dans la fiction nous ont toujours attiré des ennuis, Selby Wynne Schwartz invente, dans son drôle de livre, un nouveau genre, cut-up en 20 chapitres, dans lequel elle endosse la peau des lionnes terribles du tournant 19e-20e. Trop souvent parquées dans leur gentille petite catégorie, les lesbiennes début de siècle d'un côté, Sarah Bernhardt sur scène et Woolf dans sa chambre. Après Sappho invente une nouvelle voix, le « nous », pour réunir tout le monde. La fresque est extraordinaire. Un arlequin de femmes qui défie les courants. Les folles et les aristos dans le même jeu de jambes, baronnes et ouvrières réunies en polka. Je ne me suis pas conformée, et pourtant je suis. Aphorisme signé tout simplement Lady Barney. Selby Wynne Schwartz se fout de ce qu'on attend d'un dictionnaire Sappho. Qu'importe que ces femmes soient lesbiennes ou non, aucune ne se sont conformées. Toutes ont bravé les règles, débordé et posé problème. Liane de Pougy et sa chevelure détachée, comme Virginia Woolf et son austère chignon. Fini la sororité. Voici venir la voix du bazar et de l'impur, le cadavre saphique morcelé, la voix qui gronde, ne s'atteint pas. À celles qui ne veulent pas être piétinées par des hommes, Sappho recommande la branche la plus élevée au sommet du plus grand arbre. C'est l'utopie de Sappho, l'éloge de l'inaccessible. Si nous écrivons, nous serons hors d'atteinte. Et pour terminer, mauvais genre, ce poème brûlant de Sappho, 7e siècle avant Jésus-Christ. Ma langue sèche dans ma bouche, un feu subtil court sous ma peau, mes oreilles deviennent sourdes, mes yeux aveugles. Mon corps ruisselle de sueur, un tremblement me saisit toute, je deviens plus verte que l'herbe, je crois mourir.
Merci Esther Teilhard. Donc après Sappho aux éditions Gallimard dans la collection L'Imaginaire, Hubert Prolongeau.
Bon, on change un peu de style. Moi je parlais de Bastion de Jackie Schwartzman, qui est un auteur dont le nom rapporte un maximum de points au Scrabble. Et ce roman, je voulais en parler depuis que je l'avais lu, mais en fait on a bien fait d'attendre puisque l'actualité nous rattrape. Il se trouve que, en plus d'être drôle et prenant, Bastion plonge dans cette France d'extrême droite qui va se retrouver demain, en grand ou en petit nombre, je laisse à chacun de vous le soin de choisir l'option qu'il préfère, dans les rues. Le héros de Bastion est ce que nous serons dans quelques années, cher François, un retraité pépère qui n'aspire qu'à la tranquillité, mais hélas pour lui, son meilleur ami a l'idée de faire de la politique et se met à fricoter dans les rangs de l'extrême droite et en plus dans les rangs de la plus ridicule d'entre elles, celle d'Éric Zemmour. Bien sûr, cette plongée l'amènera à frôler l'illégalité, à fréquenter skinhead et raciste primaire, en admettant que le racisme puisse être autre chose que primaire, et à mettre à jour les liens entre de jeunes égarés et les politiciens qui les utilisent. De livre en livre, Jackie Schwartzman gagne en profondeur, sans perdre, on se souvient de Shit, son précédent, qui était déjà très drôle, sans perdre ni son humour ni sa lucidité, donc c'est à lire dès lundi, quelles qu'étaient les manifestations de dimanche. Et puis signalons rapidement la ressortie chez Rivage, sous de très belles couvertures de Miles Eman, de quatre des grands romans de Jim Thompson, Pottsville, 1280 habitants, Les Arnaqueurs, L'Assassin qui est en moi et Nuit de Fureur. Pour les accompagner, un guide de lecture, c'est-à-dire un recueil de textes préfacés forcément par François Guérif, est signé parmi d'autres écrivains, dont Hugues Pagan, Hervé Lecor, Frank Buis ou William Boy. Ne pas rater cet événement qui nous amène à redécouvrir à nouveau l'immense Jim Thompson.
Absolument, Hubert. Ça, je recommande alors très chaudement, évidemment, après Sappho, mais aussi le guide de Jim Thompson, qui est vraiment avec tous ces témoignages. Il y a un témoignage donc d'écrivains. Il y a Bertrand Bonello, ouais. Il y a ou Laurent Chalumeau, il y a même Hugues Pagan, effectivement, vous le disiez. Et c'est absolument fabuleux.
Il y a des jeux de miroir,
un dictionnaire Thompson, très très bien.
Pour ces écrivains.
Mais merci infiniment, merci Dominique Jeannereau d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre pour Suspense du roman à l'écran, le formidable Quarto Gallimard qui permet de découvrir ou de redécouvrir l'univers de Boileau-Narcejac. À bientôt Jean-Baptiste Torré.
À bientôt François,
merci. Au mois de septembre pour votre prochain film, mais en tout cas, lisez, relisez, faites lire et faites relire Back to the Bone chez Magnani Éditeur, John Carpenter. 2025, et puis donc on a cité les livres chroniqués ce soir, toute l'équipe de mauvais genre, Laurent Polleret, Nicolas Delmas, Claire Poissignon, Claire-Martin Dugard, Esther Théillard, Hubert Prolongeau et François Geulier vous remercient d'avoir suivi Mauvais genre. On se retrouve la semaine prochaine au Salon du Livre avec Jean-Baptiste Delamo et Charlotte Bourlard.